Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission Quartier Libre un peu spéciale, un peu particulière par le thème qui va être traité aujourd'hui. Et c'est l'occasion de parler de ce ciné-débat qui aura lieu demain soir au Ciné-Étoile à Digne-les-Bains. Je suis ravie d'accueillir Daniel Dufraisse, délégué départemental de l'association ADMD. Bonjour.
Bonjour, merci. De votre invitation.
Et vous allez bien sûr nous parler tout d'abord de cette association qui a déjà 35 ans.
Oui, cette association a déjà 35 ans. Elle est donc née en 1980 suite à un journaliste, un papier sur un journal qui a été fait par Michel Landa, qui était écrivain et adhérent, et qui était malade, et il a fait un papier pour décrire un peu toutes les misères de la mauvaise mort, de la mauvaise sédation, de toutes les difficultés que les personnes avaient à faire connaître leurs droits sur le bien mourir. Il a recueilli énormément de courriers, et il y a eu aussi un personnage plus connu, qui est Henri Caillavé, qui était député, qui a déposé un projet de loi contre l'acharnement thérapeutique et éventuellement pour une aide active à mourir. Le projet de loi est tombé aux oubliettes et l'association est née de tous ces mouvements et de toutes les personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là. Et depuis, nous sommes à 64 000 adhérents à ce jour. Et nous combattons et nous cherchons toujours à faire voter une loi pour une aide active à mourir. Je ne vais pas dire pour l'euthanasie parce que c'est pas toujours très très bien accepté. Le mot est mal compris, mal accepté. Donc je dis la plupart du temps aide active à mourir.
Quels sont nos droits normalement? Est-ce qu'on connaît nos droits justement quand on est malade?
Alors justement, c'est bien là le problème, c'est qu'on ne les connaît pas suffisamment. Pourtant, ils sont dans le Code de la santé publique, ils sont dans la loi Leonetti 2005, et ils sont écrits, mais ils ne sont pas suffisamment connus. Et mon travail, c'est en partie, c'est de les faire connaître. Alors ces droits, essentiellement, c'est le droit de refus de tout traitement, c'est le droit aux directives anticipées, c'est le droit à la personne de confiance, c'est le droit à l'accès au dossier médical et c'est le droit à la sédation de la douleur. Après, ça se décline avec beaucoup plus de détails dans la loi Leonetti, c'est-à-dire avec la demande de sédation qui peut être faite, bon, on en parlera peut-être après, en collégialité ou par la personne elle-même.
Voilà. Parce qu'on dit que beaucoup de progrès ont été faits dans le milieu médical pour améliorer le sort des malades. Il y a des accompagnements aux mourants qui se font, mais c'est pas encore la panacée.
Non, c'est pas encore la panacée. Même les soins palliatifs qui existent depuis quand même 1999 et qui sont bien répartis en réseau sur la France, même si les réseaux sont inégaux en quantité, ne sont pas suffisamment connus. On ne sait pas très bien ce que c'est que les soins palliatifs et qu'est-ce qu'on peut faire dans les soins palliatifs. Sur le 04, il y a actuellement 6 lits, 3 lits de soins palliatifs sur Manosque et 3 lits sur Digne-les-Bains, mais ce sont des lits identifiés. Ça veut dire que ce sont des lits qui sont répartis dans des différents services. Les soins palliatifs ne sont pas non plus très bien connus. Nous sommes pour les soins palliatifs. Nous pensons que ça peut être que les gens peuvent le souhaiter, que c'est une solution.
En quoi ça consiste en fait? Qu'est-ce qu'on appelle soins palliatifs?
Alors, je suis un peu en difficulté pour en parler à la place des soins palliatifs, mais en quelques mots, c'est lorsqu'une personne est arrivé au terme d'un traitement, un terme des examens, au terme de résultats, lorsque vraiment plus rien ne bouge et que les métastases, la maladie chronique est très avancée, la personne peut demander à aller en soins palliatifs ou le médecin le corps médical peut lui proposer d'aller en soins palliatifs. Donc cela consiste à des soins de confort. qui sont tout à fait extraordinaires, à un accompagnement par une personne bénévole éventuellement si la personne est un petit peu isolée, c'est-à-dire à des visites, des échanges, des paroles, et à une sédation des douleurs s'il y a des douleurs. Les sédations sont très très... Ça peut être tout simplement une sédation, un sédatif, mais ça peut être aussi des médicaments qui peuvent être adaptés à des douleurs particulières. Nous sommes pour les soins palliatifs, mais nous pensons que les personnes ne sont pas suffisamment informées. Quelquefois, on leur pose pas la question de savoir si elles veulent aller en soins palliatifs, et quelquefois elles se retrouvent et sont surprises d'être là. On peut dire aussi que la plupart beaucoup de personnes, enfin moi, m'appellent et me disent voilà, j'ai quelqu'un qui est dans les services soins palliatifs, mais ça dure. Et bon, les soins palliatifs, c'est un accompagnement vers une mort naturelle. Je vais être dure un petit peu avec les mots, c'est vers la mort, juste parce que le corps a cédé. Voilà, donc ça peut être très long, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc voilà, nous sommes pour, mais nous aimerions bien qu'il y ait aussi la possibilité de partir plus vite pour ceux qui le souhaitent.
Alors c'est toujours un souci avec... on a le droit de refuser donc un traitement.
Oui.
Et pourtant, on connaît des cas. Oui. Moi personnellement, j'en connais qui ont été victimes vraiment pendant de longues années d'acharnement thérapeutique, puisque on se dit à chaque fois on peut soulager, on peut faire un peu des tests. Enfin, c'est peut-être un peu osé de dire ça, mais ça va jusque là.
Je pense que vous faites très bien de le dire, et je suis vraiment très contente de vous l'entendre dire, parce que moi, mon quotidien, c'est pas mon quotidien, mais régulièrement, je reçois des appels de personnes qui sont dans des situations où elles ne savent pas très bien si c'est des soins, des traitements ou de l'acharnement thérapeutique, et elles ont besoin de clarifier si cet examen, si ce traitement va leur apporter, qu'est-ce que ce traitement ou cet examen peut leur apporter. Et c'est très difficile de faire, de savoir si on est en situation d'acharnement thérapeutique. Et donc là, nous, le service que nous proposons dans notre association, c'est de clarifier avec des médecins de la DMD, de clarifier la situation, parce que un médecin peut expliquer, peut parler au médecin de la personne, et voilà, et c'est un dialogue qui se fait à trois, et c'est très aidant, et cela met la personne dans la situation en confiance pour se décider si elle doit refuser ou non ce nouveau traitement, ce nouvel examen.
Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la loi, justement, une personne qui est malade, il y a quelques années aussi, on cachait des fois, le médecin cachait la vérité au patient, ce qui pouvait aussi être un problème parce qu'on ne sait pas, tout le monde n'a pas envie de se soigner aussi de la même façon. Enfin, on doit pouvoir avoir le choix de choisir ce...
Oui. Alors donc là aussi, c'est
comment ça se passe maintenant? Est-ce que les médecins disent toute la vérité, et encore qu'ils ne détiennent pas toujours toute la vérité, mais
c'est très variable, mais c'est très variable, très difficile, et ça dépend beaucoup de la demande de la personne et de sa personne de confiance. Il faut que la personne concernée et la personne de confiance soient très offensives, et c'est vraiment le mot qui convient, pour demander des détails, des explications, demander un entretien, demander l'accès au dossier médical, et ça n'est pas facile. Il faut être vraiment très, très... très offensif et très décidé pour avoir les informations en totalité. C'est très compliqué de demander quel est ce médicament, pourquoi, quel effet secondaire, pendant combien de temps et après. Les médecins, effectivement, le font la plupart du temps, mais bon, il y a une question de temps, il y a une question aussi de vocabulaire pour expliquer les choses. Et puis, quelquefois, c'est vrai que... C'est compliqué, c'est difficile à dire aussi. Puis le médecin ne sait pas toujours. Le médecin, il a des diagnostics, mais il a des traitements, il a tout ce qu'il faut, une panoplie, mais il sait pas, il peut pas dire non plus les choses d'une manière certaine sur la durée.
D'autant plus quand il y a des couperets, le verdict qui tombe quand on dit il n'y en a plus que pour 3 mois à vivre. Ça, c'est oui. Assez terrible aussi parce que ça, oui. On peut se tromper, enfin, le médecin peut
bien
se tromper.
Sûr.
Et puis la personne peut réagir aussi différemment au traitement.
Oui, il n'y a rien de sûr en médecine. La seule chose dont on est sûr, c'est que les médecins, le corps médical fait le maximum. Le maximum en ce qui concerne les traitements, les soins, les examens. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est extraordinaire et qui est très positif, mais qui en même temps est négatif parce que c'est un peu comme un dogme scientifique qui fait que la médecine a tout pouvoir et va jusqu'au bout du bout et qu'en même temps, on ne sait plus quand il faut arrêter, à quel moment et si on est toujours dans un moment thérapeutique, un moment curatif.
Alors, quels sont les droits des familles, justement, par rapport aux soins palliatifs ou aux soins... ou éviter l'acharnement thérapeutique si la personne n'est pas en état de s'exprimer?
Si la personne n'est pas en état d'exprimer, il y existe un document qui s'appelle Directive anticipée, qui a été mis en place par le docteur Kouchner en 2002 et d'une manière plus pratique par la loi Leonetti 2005. Ces directives anticipées, c'est un document où la personne peut rédiger ses volontés, exprimer son refus de l'acharnement thérapeutique, sa demande de sédation et faire une demande de sédation terminale, puisque dans la loi Leonetti, actuellement, c'est la sédation terminale. Elle peut y rajouter des détails personnels. Elle ne veut pas être grabataire, elle ne veut pas être immobilisée, elle ne veut pas être aveugle. Enfin, un certain nombre de détails très très précis. J'ai récemment fait des directives anticipées avec une personne, une adhérente qui me l'a demandé. Je me suis rendue à son domicile et elle voulait qu'on parle. On a beaucoup parlé de tout ce qui lui était insupportable et qui pouvait être quelque chose qui pouvait être considéré comme la limite à sa dignité. C'est-à-dire qu'elle disait, j'ai la vue qui baisse, je vais être bientôt aveugle, je vais bientôt ne plus pouvoir marcher, je vais probablement devenir incontinente et d'autres choses aussi. Et je m'aperçois que j'ai des oublis. Donc cette personne, elle avançait en âge, elle s'apercevait de beaucoup de choses, elle est très lucide et très consciente, et elle a voulu qu'on travaille sur ces directives anticipées, ce qu'on a fait, et on en a parlé. Et on en a parlé en présence de sa personne de confiance, parce que les directives anticipées sont faites par la personne concernée lorsqu'elle est lucide et consciente, mais elles doivent être communiquées et partagées avec la personne de confiance qui la représentera au cas où il n'y aurait pas de possibilité pour la personne de s'exprimer suffisamment, parce qu'on peut toujours être fatigué, amoindri, être sous-sédatif, ne pas avoir les idées suffisamment claires. Donc ce document-là est un document officiel. Nous recommandons à ce qu'il soit à côté de joint à la carte vitale, qu'il soit donné au médecin, qu'il soit donné pour toute hospitalisation. Nous les enregistrons dans notre association et s'il y a un problème, nous pouvons les faxer directement dans les services. Avec la loi 2005, avec la loi, si je peux me permettre de dire les choses ainsi, dans la loi 2005, dite Leonetti, les directives anticipées sont seulement consultables. Je veux dire par là que le corps médical doit les consulter, a obligation de les consulter, mais il n'est pas obligé de les respecter. On arrive au fait que s'il y a une situation difficile de fin de vie qui se présente, la décision pour la sédation se fera en collégialité, c'est-à-dire avec le médecin, l'équipe, la famille, la personne de confiance. Et in fine, c'est toujours le médecin qui décide. Et c'est ce que nous voudrions changer. Il faut aussi faire remarquer que décider en collégialité, c'est très difficile, parce qu'on arrive difficilement à réunir toutes les personnes. En plus, on voit bien que même avec l'histoire, l'affaire Vincent Lambert, qu'il peut toujours y avoir une personne qui ne soit pas d'accord. Et s'il y a une seule personne qui bloque, eh bien, on ne peut pas faire de demande de sédation terminale. Et donc, la situation peut durer, comme cela arrive. Je ne sais pas si je passe à d'autres choses tout de suite.
Oui, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Donc, il va y avoir donc une. Vous faites une demande de réviser la loi, Leonetti, c'est ça?
Oui. Alors, il y a. Président Hollande s'est engagé dans sa campagne électorale, c'est l'engagement 21, il s'est engagé que toute personne atteinte. Toute personne majeure atteinte en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable demande une aide médicale assistée pour sa fin de vie, selon des conditions strictes juridiques. Voilà. Donc c'était son engagement 21. Il y a à peu près 2 ans, il a mis en place un processus d'entretien, de rapports et de consultations, pas moins de 4, peut-être même 5, qui ont été faits, qui ont été rapportés. Ces différents rapports et consultations ont abouti en décembre au dernier rapport, le rapport Claes-Leonetti, qui faisait un peu la synthèse de tous ces rapports. Ce rapport Claes-Leonetti a été présenté à l'Assemblée nationale en mars dernier. Il a été discuté et il a été ensuite débattu au Sénat. Nous attendons pour les mois qui suivent le deuxième passage à l'Assemblée nationale. Alors sur ce, je parle un petit peu de le rapport. Oui. Claes-Leonetti. Ce rapport Claes-Leonetti apportait des modifications à la loi Leonetti importantes, en particulier sur les directives anticipées. Les directives anticipées deviendraient, hein, c'est au conditionnel, contraignantes, opposables. Et contraignantes, ça veut dire que le corps médical serait obligé de les respecter. Opposable, ça veut dire que le médecin pourrait être pénalisé s'il ne les respecte pas. Et il y aurait deux modèles, un modèle pour courant général et un autre modèle pour qui pourrait notifier les maladies incurables que la personne peut connaître. Et donc ce document serait un modèle unique, parce qu'actuellement il y a plusieurs modèles, il y a des modèles différents suivant, nous avons notre modèle, les soins palliatifs ont leur modèle, des hôpitaux ont notre modèle, et donc c'est toujours un petit peu difficile de s'y reconnaître, de les remplir. Donc là il y aurait un modèle unique, ce modèle unique serait au conditionnel probablement enregistré sur la carte vitale. Ce qui éviterait tous les papiers dont j'ai parlé, toutes les copies qu'il faut faire aux différents intervenants. Et donc, ce serait, voilà. Il faut dire que ces directives anticipées, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, sont révisables et révocables à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut changer de personne de confiance et dire non, ce que j'ai écrit il y a quelque temps, je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit. Donc, dans ce rapport Claes-Leonetti, il y avait ce point-là qui est un point très très important, pour nous était relativement satisfaisant. Il y avait aussi des éléments concernant l'acharnement thérapeutique qui étaient vraiment plus accentués. Si les soins sont inutiles, disproportionnés, s'ils servent seulement au maintien artificiel de la vie et sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, le médecin pourrait arrêter ou suspendre ces soins, y compris l'alimentation artificielle. L'alimentation artificielle, c'est l'alimentation et l'hydratation artificielle. Cela peut être oral ou ça peut être par perfusion. Et cela a été longtemps débattu comme étant une mesure qui était un traitement ou un non-traitement. Dernièrement, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré au sujet de la situation de M. Vincent Lambert que c'était un traitement, puisque c'était le traitement qui le maintenait en vie. Donc, dans la loi, dans le rapport Claes-Leonetti, l'alimentation artificielle serait considérée aussi comme un traitement, et donc le médecin, le corps médical serait en droit de l'arrêter. Donc là, c'est quelque chose qui est important et fondamental. Voilà. Alors sur, par contre, ce rapport Claes-Leonetti propose une sédation continue, profonde, et c'est très difficile à expliquer et très compliqué. Alors dans la loi Leonetti, c'était la sédation terminale. La sédation terminale, c'est une sédation où on endort la personne. C'est un endormissement léger, une sédation des douleurs. Et par période, quand les médicaments ont fini leur effet, on réveille la personne et on lui demande si elle veut bien continuer cette sédation. C'était la sédation terminale. On était bien sûr un peu outrés de cette torture. Moi, je dis torture, je sais que c'est un mot un peu dur, mais...
Par rapport à quoi, alors, la torture ?
La torture par rapport au fait que on endort la personne, on la réveille, on la rendort la personne jusqu'à la fin. Et ça peut durer des semaines et des semaines. Et donc c'est un peu difficile à vivre pour la personne elle-même et pour la famille. C'est une agonie, la personne vit son agonie. Et la famille vit aussi.
On la réveille pour savoir s'il faut continuer ou pas.
On la réveille pour lui demander si elle veut bien continuer la sédation terminale. Si elle veut bien continuer l'endormissement et la sédation.
Oui, c'est à chaque fois une torture, effectivement.
Moi, j'appelle ça une torture. D'autres appellent ça demander si elle est toujours d'accord. Nous, nous appelons ça une torture parce que nous considérons que bon, c'est un peu dur comme fin de vie, mais chacun a ses opinions là-dessus. Donc là, dans le rapport Claes-Leonetti, il nous propose une sédation continue profonde, et là, on arrive à autre chose. Une sédation continue profonde jusqu'au décès. Alors, la sédation profonde, c'est la mise en coma profond. La personne n'est pas consciente, on ne peut pas la réveiller facilement, on ne la réveille pas, on n'a plus de contact avec elle. Et donc, on arrête l'alimentation artificielle, forcément, puisque si on ne l'arrêtait pas, il y aurait maintien de la vie, et continue jusqu'au décès. Donc là aussi, ça peut être un progrès pour certaines personnes, pour nous, ça ne l'est pas, parce que la personne... est en coma profond, bien sûr, mais elle n'est pas hydratée ni alimentée, et le corps souffre, parce qu'il n'y a plus d'hydratation, et donc il y a des désordres chimiques, des désordres physiques, et il peut y avoir des effets physiques visibles comme l'agitation, comme le délire, comme des effets secondaires. Et puis alors ce sont aussi des médicaments très forts qui peuvent être plus administrés par oral, en sous-cutané ou en intraveineux selon la sédation que l'on veut obtenir, et ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires très importants. Pour nous, cette sédation profonde, cette sédation continue profonde est toujours une torture, parce que cela ne diminue pas la durée de la fin de vie. Simplement, cela masque l'agonie. Il n'y a plus d'agonie, la personne dort, elle est endormie profondément. Il n'y a plus d'agonie et donc, voilà, il faut attendre aussi que le corps cède, le corps souffre et le corps cède à un moment ou à un autre.
Et ça peut durer des jours.
Ça peut durer. Alors la mort par déshydratation, ça, c'est une moyenne de 10 jours. Et dans l'ensemble, les morts par sédation profondes qui sont connues et qu'on connaît, ça va jusqu'à 3 semaines à peu près. Et cela dépend bien sûr de la personne, de sa pathologie, de son âge, de sa fatigue, de sa situation de santé. Il y a des personnes, des gens qui s'accrochent, qui sont solides et qui durent plus longtemps. Donc dans ce rapport Claes-Leonetti, nous avons considéré cette nouveauté entre guillemets. Nous pensons que c'est une hypocrisie qui ne veut pas parler d'euthanasie, parce que c'était aussi dans la loi 2005, mais là c'est dans le rapport Claes-Leonetti qui dit que le corps médical a le droit d'administrer des médicaments, des sédatifs qui peuvent sédater, mais en même temps abréger la vie. Il doit en informer la personne, bien entendu. Donc pour nous, c'est une hypocrisie, parce qu'en fait, le corps médical n'a pas l'intention de donner la mort, bien entendu, mais dans les faits, la personne va mourir, si je peux me permettre de dire les choses, à petit feu et jusqu'au bout,
ce n'est pas une fin de vie confortable
pour personne. Mm-hmm. Alors on parle de soulager les souffrances, ça je voulais le dire, parce que on parle pas de douleur vraiment, on parle plus de souffrances physiques et psychiques, parce que le mot souffrance englobe plus toute la douleur physique et toutes les souffrances psychiques. Parce que lorsqu'on a un cancer, on n'a pas toujours des douleurs physiques, mais on a une douleur morale, une détresse morale, une solitude dans cette maladie qui fait qu'il y a une souffrance psychique qui peut être très très forte et qui est présente. Donc dans les textes, vous verrez... On parle régulièrement de souffrances physiques et psychiques. Bon, pour le rapport Claes-Leonetti, c'est à peu près l'essentiel. Il y a des mesures pour les personnes qui sont sous protection juridique, c'est-à-dire que... Une personne qui est sous tutelle peut bénéficier de ces directives anticipées et de la personne de confiance si elle avait, avant sa mise sous tutelle, si avant sa mise sous tutelle, elle avait écrit des directives anticipées. Ce sont des cas fréquents. On a des personnes âgées qui se trouvent mises sous tutelle, qui ont fait des directives anticipées. Et à partir du moment où elles sont mises sous tutelle, moi j'ai eu un cas à gérer. À partir du moment où elles sont mises sur tutelle, le juge des tutelles refuse à ce qu'on renouvelle la directive anticipée. Les directives anticipées actuellement sont valables 3 ans et renouvelables. À chaque instant, mais renouvelable tous les 3 ans officiellement. Et pour les personnes qui sont c'est l'essentiel. Alors, dans ce rapport Claes-Leonetti, il y a quelque chose aussi qui est nouveau et qui est intéressant, et nous sommes tout à fait intéressés et pensons que c'est très positif, c'est que la personne de confiance pourrait avoir accès au dossier médical. Jusqu'à maintenant, la seule personne qui a accès au dossier médical, c'est la personne concernée. Donc, dans le rapport classé Onetti, la personne de confiance dans la situation de fin de vie, où elle devrait faire valoir les directives anticipées de la personne, elle pourrait avoir accès au dossier médical pour vérifier si les éléments qui sont dans le dossier sont bien en relation avec ce qui est écrit dans les directives anticipées et la volonté de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très positif et nous espérons que cela passera. Tout cela sera notifié dans le dossier médical, notifié sur un registre, serait rapporté en assemblée plénière à l'Agence régionale de santé. Il y aurait évidemment une évaluation, une commission de contrôle pour toutes les situations de sédation qui seraient mises en place. C'est très complexe, très technique, très juridique et c'est assez difficile aussi à comprendre et même à expliquer. Alors, ce rapport Claes-Leonetti, il est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'objectif du président Hollande, c'était d'aller vers un consensus. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale a bien débattu, amélioré, etc. Mais le Sénat, lui, a tout détricoté. Il a même supprimé la sédation. Il a supprimé plein de détails. Et donc, on en arrive au point de départ.
Ah oui, parce que c'est plus un point de détail, la sédation, alors, puisque c'était...
Voilà, le débat porte sur la sédation continue, profonde. Alors, si c'est continue, profonde, on va vers l'euthanasie. Si c'est sédation... Enfin, ce sont des détails qui sont vraiment lamentables parce que en fait, il faut quand même se remettre en mémoire que 96% de la population est en faveur d'une loi sur l'aide active à mourir. 60% des médecins sont favorables. Et bon, c'est quand même quelque chose qui est important. Il faut aussi rappeler qu'en ce qui concerne les soins palliatifs, il n'y a que 75% des personnes qui en profitent parce qu'il y a une insuffisance de lits, de soins palliatifs et insuffisance aussi d'équipes qui se déplacent à domicile. Et là aussi, c'est un point important pour le mal mourir qui existe en France. Il faut aussi rappeler que la plupart d'entre nous, et on préférerait mourir chez soi, et c'est le contraire, 75% des gens meurent à l'hôpital du fait justement des traitements, des sédations. Et je ne vais pas dire l'acharnement thérapeutique parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais des traitements qui continuent.
Est-ce que dans nos pays voisins, il y a des possibilités d'aller mourir dans d'autres pays?
Non,
ça,
oui.
Parce que ça se pratique, est-ce que c'est en Suisse?
C'est le travail que nous faisons dans notre association, puisque nous recherchons tous les moyens d'accompagner et d'aider dans la mesure, dans la légalité, et dans la mesure de nos possibilités pour que les personnes puissent finir leur vie comme elles le souhaitent. Donc il y a la possibilité d'aller en Belgique. Aller en Belgique, c'est... Il y a deux conditions. On peut habiter la frontière. Il y a entre la frontière belge, la frontière belge et la Belgique, il y a des accords sociaux, des accords sécurité sociale, des accords sociaux qui existent depuis longtemps. Et donc les personnes frontalières peuvent bénéficier de l'aide médicale à mourir si elles habitent en Belgique. Il leur faut cependant être soignées par un médecin belge pendant quelque temps et puis faire si les choses, leurs dossiers etc. sont acceptés, faire une demande et elles peuvent effectivement aller mourir en Belgique et il y a dans le département des personnes qui sont parties. Il y a aussi la possibilité d'aller en Suisse. Alors bon, c'est controversé bien sûr parce que c'est quand même assez dur de
quitter... Donc là ça veut dire qu'on va dans un hôpital? Non. En Belgique ou en Suisse?
En Belgique, on va dans un hôpital. Hein. En Belgique, c'est l'aide active à mourir qui existe, l'euthanasie. Mm-hmm. Ils disent euthanasie, ils n'ont pas peur des mots.
Voilà.
Nous sommes un peu coincés sur le mot euthanasie. Eux, c'est la loi sur l'euthanasie qui existe depuis 2002. Ils ont 12 ans d'avance sur nous. Et depuis peu, ils ont fait bénéficier cette loi pour les enfants... adolescents qui le réclament. Et ça a été mis en place il y a un peu plus d'un an. Et donc là, il faut que l'enfant fasse la demande, que les parents soient d'accord et que le corps médical soit d'accord. Et bien sûr, c'est rarissime, mais on ne pouvait pas penser que si on donne cette possibilité à des adultes souffrants, on ne puisse pas la donner à des enfants qui sont dans des situations de maladies vraiment très très graves et incurables et dans l'impasse de traitement. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas frontalières, ce sont des personnes qui peuvent faire la demande et d'être soignées. Et alors elles font les déplacements, déplacements en Belgique de consultation, plusieurs consultations. Et puis si leur dossier est accepté, elles peuvent effectivement bénéficier de l'aide, l'aide légale sur l'euthanasie en Belgique.
Ça veut dire encore une fois qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir s'octroyer une mort digne de ce nom.
Il faut avoir des moyens, il faut être accompagné, il faut être soutenu et il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment être déterminé. C'est une démarche que l'on fait que l'on fait dans sa tête depuis longtemps, que l'on prépare, que l'on anticipe et qu'on envoie tous les détails d'une manière très très précise.
Alors, vous êtes déléguée départementale.
Je voulais dire un mot pour la Suisse,
oui,
si vous le permettez.
Oui, oui.
Si vous le permettez.
Bien sûr.
Pour la Suisse, nous travaillons avec la Suisse parce que nous avons des personnes qui demandent à partir en Suisse et régulièrement. Ce sont des personnes qui veulent finir leur vie d'une manière sereine, c'est-à-dire que nos détracteurs disent qu'ils partent en bonne santé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui partent avant d'avoir tous les inconvénients des complications, des métastases ou de la paralysie totale ou du blocage total pour les Parkinson par exemple, ou d'une immobilisation complète pour des personnes qui ont des tumeurs au cerveau par exemple. Donc ces personnes veulent partir avant de subir et de vivre leur déchéance au quotidien. Et donc elle nous interpelle pour qu'on leur donne les informations. Il y a 3 associations qui accueillent les personnes étrangères. C'est Dignitas, Exit et Life Circle. Nous les mettons en relation et après ce sont les personnes qui font leur démarche totalement et nous leur expliquons globalement comment ça se passe. Voilà.
Et vous êtes dans cette aventure depuis longtemps?
Je suis déléguée depuis 5 ans et c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est quand même très lourd. Et j'aimerais bien que la loi évolue parce que mon travail est tout à fait passionnant, très humain, extraordinaire même, je dirais. Mais c'est très inconfortable. Très inconfortable parce que nous avons des demandes diverses et variées.
Quelles sont vos possibilités à vous juste de donner des informations,
voilà.
et de faire monter
de donner public. des informations, de faire soutenir nos adhérents par des médecins de la DMD. Nous avons un médecin conseil à peu près dans chaque département qui peut soutenir et être au téléphone toutes les fois que la personne le souhaite, et puis expliquer, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit au point de départ, les droits sont méconnus, ils sont toujours difficiles à faire respecter. Mais c'est très inconfortable parce qu'on ne répond pas vraiment à la demande, et c'est quand même très, très, très dommage qu'on ne puisse pas avancer d'une manière plus claire et plus positive et qu'on puisse pas soulager, que les personnes ne puissent pas être soulagées réellement si elles souhaitent avoir une aide active à mourir. Parce que l'aide active à mourir, ça n'est pas la sédation continue et profonde dont je vous ai parlé, c'est une une sédation qui fait partir dans le quart d'heure qui suit. Donc la personne se prépare sereinement. Il faut qu'elle soit en mesure d'avaler ou de boire la potion, ou qu'elle soit en mesure d'activer la roulette de la perfusion si elle ne peut pas avaler, parce que ça peut arriver aussi. Donc il faut que ce soit une personne qui soit très lucide et consciente, et comme le disent nos détracteurs, il faut qu'elle soit aussi en bonne santé, sinon elle peut pas être lucide et consciente, et elle ne peut pas, faire l'acte elle-même ou le vivre elle-même. Voilà.
Alors, Daniel Dufraisse, donc délégué départemental de l'ADMD, Association du droit à mourir...
Pour le droit de mourir dans la dignité.
Oui. Donc, vous organisez demain, à Digne, donc au Ciné Étoile, la projection d'un film, si vous voulez bien nous en parler et nous dire quels sont vos partenaires.
Alors, j'ai choisi ce film parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire courante qui m'est rapportée régulièrement. C'est l'histoire d'une personne qui lutte contre un cancer non guérissable depuis 14 ans et qui donc va de rémission en rechute et qui a envie de vivre et qui a envie de se battre, mais qui néanmoins se retrouve dans la situation où de toute façon il y a un moment où il y a plus rien à faire. Elle fait sa demande auprès des médecins, mais la réponse qu'on va lui faire, c'est je vous promets que vous ne souffrirez pas. Donc elle n'est pas entendue dans sa demande de sédation terminale, puisqu'actuellement, selon la loi des notices, c'est la loi, c'est la sédation terminale, n'est pas entendue. Et elle continue donc à avoir envie de vivre, et il arrive un moment où elle est très malade, elle est inconsciente, et elle voulait choisir, justement, elle avait envie de choisir le moment et la manière, elle n'a pas pu le faire. Elle se retrouve à un moment où elle est inconsciente, et c'est sa personne de confiance, qui est donc la réalisatrice, qui va demander la sédation terminale alors qu'elle est déjà en période agonisante. Voilà. Et donc c'est une situation qui est très courante parce que c'est très difficile de s'expliquer, de s'entendre et de demander une sédation terminale bien avant que l'on soit dans la situation où le pronostic vital est engagé et où où il y a... C'est ça. Donc j'ai choisi ce film-là pour en parler et aussi pour faire l'état des lieux sur l'actualité législative qui, j'espère, va évoluer aussi et puis arriver à quelque chose dans les mois qui vont venir. L'orateur qui m'accompagne est Monsieur Michel Jacob. C'est un membre de... l'association Graines de Savoir. Nous partageons l'objectif de faire savoir, de dire les choses, de comprendre, d'essayer de comprendre pour agir. C'est une association qui fait des cafés citoyens, qui fait des conférences. Et j'étais allée à un café citoyen sur Fort-Calquier il y a quelques mois. Et Monsieur Michel Jacob avait fait un café citoyen sur la fin de vie, sur les lois, et j'ai trouvé c'était vraiment très très intéressant. Donc je l'ai invité à partager cette soirée, il a accepté, donc je m'en réjouis. Je suis très 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 heureuse de partager cette soirée avec lui.
Alors Daniel Dufraisse, on va écouter la bande-annonce de ce film qui s'appelle « Le moment et la manière ».
Oui.
De la réalisatrice Anne.
Alors je vais vous le dire parce qu'il est impossible. Anne Kunvari.
Allez,
la personne concernée, c'est Anne Matalon, qui est un écrivain qui a écrit des livres et qui a aussi a mis sur place magasin de produits pour s'embellir la vie quand on a un cancer qui se trouve près de la Bastille.
Alors, on écoute la bande-annonce de ce film qui sera donc diffusé demain à 18h au Ciné Étoile et qui s'appelle Le moment et la manière.
Ah, qu'est-ce que j'aime bien cette femme. qui me touche, c'est qu'elle est morte d'un cancer. Personne ne... Il y a quelqu'un qui savait qu'elle en avait un, sans doute.
Mais elle, ça a été très vite.
Hein? C'était très vite, sans doute, parce qu'elle a...
Elle a rien dit pendant très longtemps, tu penses?
Elle a rien fait, quoi. Je crois pas que ce soit un cancer qui l'a tué en une semaine. Hein. Mais elle... En gros, elle a dit, je vais me reposer.
Ouais.
Puis une semaine après, elle est morte.
Ça devait faire longtemps, quand même.
Ça devait faire longtemps. Mais c'est un exemple.
Ah, oui, enfin bon, elle aurait peut-être dû se soigner, non? Enfin, je sais pas.
Ouf, non, moi je crois. Bon, non. Enfin, c'est tellement son choix que.
Oui, c'est son choix, voilà, c'est tout.
C'est-à-dire pouvoir travailler encore jusqu'à 5 jours avant sa mort, c'est peut-être.
Ouais. Ce qui pourrait avoir du sens.
Bah ouais. Bon, c'est mon héroïne.
Un jour, une petite châtelaine, enlevée par des romanichels, fut mise dans une chambre malsaine, tout en haut de la rue Saint-Michel. La petite au caractère hier prit joyeusement son malheur. Le lendemain, elle était souriante à sa fenêtre fleurie chaque soir.
Je pense qu'on arrive encore à trouver des réponses thérapeutiques pour ta maladie et que c'est pas fini. Donc je me dis que voilà, fais leur confiance.
Qu'on arrive un peu en bout de.
Non, confiance. Je pense que dans le chapeau il y a encore.
Ah ouais. Maintenant, on entend beaucoup parler de comment traverser le cancer, mais comment vivre avec longtemps, j'en entends moins parler.
Oui, mais c'est mignon. Non, mais elle ne te donne pas mauvaise mine.
Ni bonne non plus.
Ni bonne, non, on ne peut pas dire que ça te donne
disons
bonne mine.
Disons que c'est assorti à ton teint.
Voilà, exactement. C'est à peu près ça, c'est assorti à ton teint.
Je ne veux pas d'une mort, par exemple, dans ce service qui est super bien et tout, mais qui dure un mois et où je te dis où j'aurai un tuyau qui me fait mal, où je serai pas bien, où je serai très inconsciente, ou très, enfin, toi très peu consciente, je déteste ça. Enfin, bon.
Et ce qui te rassure, c'est de penser que si tu veux, tu peux arrêter de vivre, j'entends.
Ce qui me rassure, c'est de penser que je vais décider de comment j'arrête de vivre.
C'est une espèce d'endormissement, mais extrêmement profond, dont ils ont la certitude que tu ne ressens plus rien.
Oui. Ça dure 4-5 jours et on meurt.
Et on meurt.
Oui.
Nous avons donc pu écouter la bande-annonce du film de Anne Kounvari qui s'appelle Le moment et la manière, donc un film documentaire avec Anne Matalon. Et avec donc un débat, ce sera demain à 18h au Ciné-Étoile à Digne-les-Bains, un débat avec vous-même, Daniel Dufraisse, délégué départemental de l'association
pour le droit de mourir dans la dignité. Et effectivement, ce que nous souhaitons, c'est l'aide active à mourir, parce que pour nous, la dignité, c'est de ne pas vivre des situations qui nous paraissent indignes.
Voilà. Donc le combat, vous le disiez à l'instant, continue et continuera jusqu'à ce qu'on améliore cette loi pour ces personnes qui sont en grande souffrance. Et vous-même, vous avez, comme beaucoup, vécu ce déchirement
bien sûr,
avec des proches.
J'ai vécu et j'ai aussi dans mon entourage des personnes qui sont dans des situations difficiles. Et effectivement, c'est pas... pas confortable du tout.
On peut bien sûr adhérer à votre association.
Bien sûr, vous pouvez adhérer. L'adhésion, alors j'en profite pour le dire, l'adhésion c'est 26€ par personne. Il y a une adhésion pour un couple et nous avons une commission jeune qui est très très active, qui, et l'adhésion c'est 5 euros. Cette commission jeune est très étoffée, ils ont fait récemment un tour de France pour parler donc de l'aide active à mourir et de leur volonté, et donc nous travaillons beaucoup avec eux. Ils vont probablement même devenir une association séparée ADMD, et nous les encourageons et nous sommes très heureux d'avoir des jeunes avec nous, bien sûr.
Et pour terminer, puisque le temps passe et qu'on est bientôt en fin d'émission, il y a une assemblée générale le 12. Alors c'est à Annecy. Pourquoi Annecy alors que c'est
Nous changeons tous les ans. L'année dernière c'était Strasbourg, l'année d'avant c'était Bordeaux. Cette année c'est Annecy qui nous accueille et nous faisons aussi un peu le tour. On a été à Lille, on a été
Donc c'est réservé aux membres de l'association.
C'est réservé aux adhérents. Nous faisons le point sur l'année passée. Nous pouvons dire que cette année a été extraordinaire parce que nous avons augmenté de 12 000 adhérents en une année. C'est du jamais vu. Et donc nous allons mettre en place, après le bilan de tous les comptes que font toutes les associations, probablement une nouvelle stratégie d'explication, d'information. Et nous contactons nos parlementaires de tous les départements. Je les contacte, je les ai au téléphone, je vais les rencontrer pour vraiment nous expliquer. Et on va pas les convaincre, mais nous expliquons au maximum. Et pour la prochaine présentation du rapport Claeys-Leonetti à l'Assemblée nationale qui devrait se faire dans les mois qui viennent. Voilà.
Donc, le droit de maîtriser sa fin de vie, ça devrait être un droit pour tous.
Oui. Alors, le droit de maîtriser, c'est un mot qui nous est un peu reproché parce que les gens disent « vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans… vous voulez tout gérer ». Nous disons nous voulons nous faire du bien, nous voulons être sereins et nous voulons préparer, nous voulons apprivoiser ce moment-là. Et c'est comme ça. Et c'est quand même disposer de son propre corps en fin de vie, c'est peut-être même un minimum en fait. Bon, pour nous, ça l'est en tout cas. Voilà.
Il existe un blog où on peut retrouver des renseignements, donc ADMD, qu'on retrouve donc sur le net.
Oui, bien sûr.
Et puis on vous retrouve, vous, donc demain soir.
Oui, avec plaisir.
Et puis peut-être que vous continuez, vous faites des conférences ou…
Alors je fais régulièrement des réunions, régulièrement des ciné-débats. Je me déplace aussi à la demande des personnes. Partout où on m'appelle, où on me demande de venir pour faire des informations.
Daniel Dufraisse, merci. Et puis à très bientôt, certainement à demain au Ciné-Étoile. Au revoir.
Merci de votre écoute.